Alors nous allons ce matin lire différents versets dans la parole de Dieu et je vais parler d'un thème qui peut sembler un peu évident, anodin, banal, mais qui pourtant est un thème majeur si nous voulons continuer d'avancer dans la vie chrétienne. Et pour cela, j'aimerais d'abord lire un verset dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, verset 2. Exode, chapitre 2, verset 2. Donc Moïse vient au monde. Nous savons que le Pharaon a organisé une persécution contre tous les mâles juifs. Et il est dit, là, au verset 2 du chapitre 2, « Cette femme, donc cette femme, c'est la maman de Moïse, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. » Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Qu'est-ce que nous voyons là dans cette scène? Nous voyons une maman qui met au monde un enfant et, sans me tromper, je peux dire que tous les parents trouvent que leur enfant est le plus beau du monde. Peu importe ce que peuvent dire les autres, c'est notre enfant. Il n'y a pas mieux que lui. Mais pourtant, les autres mamans n'ont pas agi comme la maman de Moïse. C'est-à-dire qu'il y a eu la persécution, beaucoup des dizaines de milliers d'enfants mâles sont tués. Mais cette maman va au-delà des circonstances, au-delà de la situation, et elle croit qu'il faut préserver cet enfant. Elle trouve qu'il est beau, qu'il est particulièrement beau. Et bien entendu, nous savons ce qui va en être de Moïse, type de Jésus-Christ, le libérateur, celui qui va délivrer le peuple de l'esclavage en Égypte, Égypte type du monde, et nous aussi, nous avons été sauvés par Christ, nous avons été extraits de ce monde, délivrés de ce monde. Et donc là, nous avons une scène très intéressante où nous voyons cette femme qui, d'une façon prophétique, va préserver ce qui est beau. Parce qu'il est dit, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ça nous fait penser à une autre scène très similaire avec Marie dans l'évangile de Luc. Toujours au chapitre 2 d'ailleurs, Exode 2 et Luc chapitre 2. Et au verset 19, Marie apprend de l'ange Gabriel qu'elle va être enceinte, qu'elle va enfanter alors qu'elle n'a pas connu d'homme. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui va permettre ce miracle. Et Marie a entendu la parole de Dieu au travers de l'ange. Et il est dit là au verset 19, « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. D'une certaine façon, Marie préservait ce qui était beau. Les autres ne savaient pas ce qui était en train de se passer. Elle allait avoir un ventre qui allait grossir, peut-être qu'elle a subi des calomnies, on a peut-être douté de sa probité, de sa sainteté, de sa marche avec Dieu. Mais elle avait entendu la parole de Dieu et elle gardait précieusement ces choses en elle. La maman de Moïse a caché son fils, la Marie a gardé en elle ces choses. Et ça nous parle de notre vie personnelle avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu a fait un dépôt en nous. Nous avons été régénérés, nous sommes nés d'une semence incorruptible, et cette semence, c'est la parole de Dieu, telle que nous dit l'apôtre Pierre dans sa première épître. Et tous, autant que nous sommes là, qui connaissons le Seigneur, nous avons reçu un dépôt où il nous est demandé de le garder, ce dépôt. Bien entendu, nous savons que c'est le Seigneur qui va aussi nous préserver de tout mal, qui va l'œuvre qu'il a commencée en nous, c'est lui qui va l'accomplir jusqu'à la fin. Il y a la part du Seigneur et nous savons et nous pouvons nous appuyer sur sa fidélité. Nous savons cela. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous préservons ce qui est beau dans notre vie? Est-ce que nous préservons ce qui est beau dans notre âme? Est-ce que nous préservons ce qui est beau dans notre être intérieur, l'être spirituel, l'être qui ne se voit pas, qui est bien plus important que l'apparence et ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas toujours facile à vivre. Ce que nous sommes aujourd'hui, dans la chair, avec nos questionnements, n'est pas toujours édifiant. Nous avons nos combats, nous avons nos luttes. Mais qu'est-ce qui peut nous garder durant des jours, durant des mois, durant des années? C'est de méditer et de garder ce qui est beau. Est-ce que nous ne devenons pas parfois indifférents devant les merveilles de Dieu? Est-ce que nous ne passons pas à côté d'une forme d'émerveillement? Souvent la vie nous paraît insipide, elle nous paraît difficile, elle nous paraît inutile. À quoi je sers? À quoi ça sert tout cela? Mais est-ce que l'on n'est pas démoralisé à cause du simple fait que l'on passe à côté des merveilles de Dieu? De penser, par exemple, que nous avons reçu la troisième personne de la Trinité en nous. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Dieu peut nous parler. Dieu peut nous reprendre. Dieu peut nous convaincre. Est-ce que nous réalisons, ce matin peut-être plus encore qu'hier, que nous pouvons attrister le Saint-Esprit? Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et au-delà d'une forme de culpabilité en disant « Ouh là là, il ne faut pas que j'attriste le Saint-Esprit », c'est de penser que Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'il est attristé. C'est intéressant parce que l'apôtre Paul ne dit pas « Obéissez et ne mettez pas le Saint-Esprit en colère ». Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». C'est-à-dire que le Saint-Esprit a une volonté de garder une communion avec nous, de nous relier de plus en plus avec le Fils, et par le Fils, nous donner accès au Père. Nous sommes des prêtres, nous sommes des sacrificateurs. Vous savez, quand dans le tabernacle, dans le désert, ou à Jérusalem, après dans le temple, vous aviez les croyants qui apportaient leurs sacrifices, qui apportaient le sacrifice de communion, de culpabilité, l'Holocauste, la Pâque, tous les sacrifices et toutes les fêtes qui étaient célébrées. Et ils pouvaient se réjouir, parfois ils étaient plutôt dans une attitude de repentance, mais en tous les cas, ils étaient à l'extérieur de la présence de Dieu, ils n'avaient pas accès, ils ne pouvaient pas rentrer. Et peut-être que certains devaient se dire, moi j'aurais bien aimé naître dans la tribu de Lévi, j'aurais aimé être fils de Lévi pour pouvoir au moins entrer dans le lieu saint. Pendant toute leur vie, les croyants ne pouvaient pas entrer dans le lieu saint, tous ceux qui faisaient partie des autres tribus. Et puis peut-être que quelques Lévis devaient se dire « Bon, c'est bien, je profite du lieu saint, mais moi j'aimerais bien passer au-delà du voile de temps en temps. Pourquoi c'est lui qui va au-delà du voile une fois par an? Qu'est-ce qu'il vit là ?» Et nous, nous avons un accès, le voile a été déchiré. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Dieu qui a compassion de nous, Dieu qui veut une relation avec nous, Dieu qui nous aime, Dieu qui a ouvert ses bras jusqu'à les accepter qu'il soit cloué à la croix. Nous avons un Dieu qui nous donne de belles choses, qui nous donne son amour, sa compassion, sa patience, sa longanimité, l'espérance, la vie abondante. Ça, c'est notre Dieu. Est-ce que nous gardons ces choses en nous? Ou est-ce que nous gardons l'amertume, le regret, la culpabilité, l'hypocrisie parfois, la double pensée? Une foi simple est une foi qui est reconnaissante vis-à-vis de ce que Dieu fait. Vous savez, Marie, lorsqu'il est dit qu'elle gardait toutes ces choses, en réalité toutes ces choses, c'est toutes les paroles qu'elle avait entendues. Le verbe en grec, soutereo, ça parle de conserver quelque chose pour pas que ça soit perdu. Vous savez, quand on vous offre un cadeau qui est peut-être fragile s'il tombe, mais parce que la personne qui vous l'a offert vous aime et que vous l'aimez, et puis parce que l'objet est beau, vous le mettez à un endroit pour pas qu'il se casse. Vous en prenez soin. Et c'est ce que faisait Marie. Elle gardait ces choses pour pas que ça se perde. C'est pas « je le garde dans le cagibi », je le garde dans un endroit sûr. Et pour nous, comment ça peut se décliner? Ben, relire parfois certaines notes que l'on a prises dans un culte et on se dit là, ce jour-là, le Seigneur m'a touché, je me rappelle qu'il a parlé de quelque chose, j'ai un peu des doutes sur le sens exact du message, je vais relire mes notes, je vais méditer là-dessus. Je vais me présenter à Dieu et je vais demander à Dieu qu'il m'éclaire encore plus. Je vais relire certains passages bibliques. Peut-être que je vais lire un livre que j'ai lu il y a longtemps mais qui m'avait tellement béni et je vais le ressortir. Simplement de garder ces choses. De pas passer à côté de merveilles. Vous savez, à Paris, on dit que c'est une belle ville et je le crois aussi. Il y a des beaux bâtiments, mais même moi, des fois, je me dis, je passe à côté de belles choses, je les regarde plus, parce que ça fait partie de mon quotidien. Il y a des gens qui payent des fortunes pour traverser le monde, payer un hôtel, et puis, voilà, visiter certaines choses. Et moi, j'habite Paris, je n'y suis même pas allé. Alors, c'est pas un péché. Juste, c'est pour vous donner un peu une illustration. C'est parce que les choses sont là, on les contemple plus. On les garde plus. Oui, je suis sauvé, je connais ce verbe, sauvé. Oui. Je suis enfant de Dieu. Oui. Quelle banalité. Je suis enfant de Dieu. Mais je peux me parler différemment et me dire, je suis enfant de Dieu. Je suis son enfant. Vous savez, quand j'étais petit, parfois j'étais gardé dans des familles et alors que je pouvais jouer avec les jouets des autres enfants, etc. Mais je sentais par moments que les parents faisaient une faveur à leur enfant et pas à moi. Ça m'est arrivé une fois, j'avais été blessé. Le père avait pris son enfant à part, il lui avait offert un gâteau, mais moi j'y avais pas le droit. On se sent exclu. Mais nous avons été intégrés dans la famille de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons Christ qui est héritier. Et nous avons notre frère aîné. Et puis nous sommes co-héritiers avec lui. C'est pour ça que Jésus a pu dire, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Et il y a des places qui nous sont préparées. Sommes-nous indifférents devant cette vérité? Qu'en ce moment même, Jésus nous prépare une place. Qu'en ce moment même, Jésus-Christ intercède pour nous. Peut-être qu'il y a des choses que nous traversons qui sont difficiles. Peut-être nous faisons face à des difficultés ou à une guerre spirituelle dont nous ne sommes même pas conscients, un peu comme Pierre, lorsque Jésus lui a dit, tu sais, le diable a cherché à te cribler, j'ai à prier pour toi. Mais qui sait si Dieu ne prie pas pour nous, Jésus-Christ ne prie pas pour nous dans le même sens, plus souvent qu'on ne le croit. On pense que Jésus nous a oubliés, on pense qu'il tarde à répondre à nos prières, on pense qu'il est absent de nos vies. Ce sont des mensonges. Il est autant concerné par notre vie aujourd'hui qu'il était concerné lorsqu'il a dû aller à la croix. C'est le même amour qu'il a pour nous. Vous savez, on connaît ce verset d'Hébreu, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça signifie que son amour est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle assurance nous pouvons avoir. Se repasser ces choses-là dans notre cœur. En Jérémie 2:2, Dieu s'adresse à son peuple, à Israël, et il fait une réflexion qui m'a toujours étonné. Il est dit ceci, donc Jérémie chapitre 2, verset 2. « Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. » Ça, c'est une belle phrase anthropomorphique, hein, où on le sait, quand on est jeune, fiancé, l'amour se voit, et puis peut-être que certains couples, même chrétiens, avec le temps, ont banalisé l'amour que Dieu avait mis dans leur cœur. Alors évidemment, la vie fait l'âge, les choses évoluent. Un couple doit évoluer, bien entendu. Mais est-ce qu'on garde dans notre cœur cet amour de jeunesse? Se rappeler la joie que l'on avait devant Dieu, dire merci Seigneur, parce que tu m'as donné une épouse, tu m'as donné un mari. Alors je sais, on connaît peut-être un peu plus l'épouse et le mari dans la chair qu'on ne le connaissait avant, mais néanmoins, c'est une bénédiction. Est-ce que je préserve mon couple? Est-ce que je le préserve? Est-ce que je cultive une relation saine, aimante dans le couple? Quelle est la façon dont je parle à la personne avec qui je vis? Est-ce que je chéris cette chose-là? Est-ce que je la garde dans mon cœur? Est-ce que je prie pour ceux qui sont sous mon toit? Et donc là, Dieu dit, lorsque tu étais jeune, je me souviens de ton affection lorsque tu étais fiancé. Alors on peut se dire, quelle est cette période de fiançailles dont Dieu parle au sujet d'Israël? Il est dit « quand tu me suivais au désert dans une terre inculte ». Alors, je ne sais pas pour vous, mais alors là, moi, je ne comprends pas. Parce qu'en termes de fiançailles, j'ai trouvé mieux que la relation entre le peuple et Dieu dans le désert. Dans le désert, on voit sans arrêt le peuple grincer des dents, se plaindre, on en a marre de la manne, il n'y a pas d'eau, Dieu nous a délivré d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert, on arrive à Canaan, il y a des géants. Je ne vois pas très bien une forme de lune de miel ou de paire de fiançailles entre l'Éternel et son peuple à ce moment-là. Mais pourquoi Dieu dit en Jérémie 2:2, « Je me souviens de ton affection dans le désert ». Parce qu'à l'époque de Jérémie, parlait d'idolâtrie tout à l'heure, le peuple s'est éloigné encore plus, avait complètement oublié son Dieu, au point de fabriquer des bouts de bois et d'adorer et de mettre sa confiance dans des idoles. Ça nous montre à quel point le peuple de Dieu s'était éloigné. Dans le désert, la relation était conflictuelle, mais il y avait une relation. Il y avait la présence de Dieu au milieu du peuple. Et lorsque la lumière de Dieu, la Shekinah, se déplaçait, le peuple se déplaçait. Au temps de Jérémie, Dieu pouvait faire ce qu'il voulait, le peuple ne suivait pas. Le peuple ne suivait plus. De chérir, de garder dans notre cœur cette volonté de suivre Dieu, de marcher dans les traces de Dieu. Seigneur, où tu vas pour que moi j'y aille aussi? Où tu vas dans ma vie? Quelle direction tu es en train de prendre devant mes yeux spirituels pour que moi je sois guidé? Et pas, peut-être qu'il y aura des hauts et des bas dans la relation, mais Seigneur, je veux chérir le privilège qui consiste à te suivre. En Apocalypse 2:4, on a cette idée d'un amour oublié avec l'église d'Éphèse, où Jésus dit à cette église, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Pourtant, cette église avait réfuté les faux docteurs, était dans la bonne doctrine, elle pratiquait des œuvres. Je veux dire, en apparence, tout allait bien. Question, est-ce qu'ils conservaient dans le cœur, est-ce qu'ils gardaient l'amour de Dieu dans leur cœur, source de toute motivation, selon 2 Corinthiens 5, 14 à 17, lorsque Paul dit, c'est l'amour de Dieu qui me presse. Si ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous presse, qu'est-ce qui nous presse? La culpabilité? Le regard des autres? Parce qu'on n'a pas d'autre chose à faire? Parce qu'on est habitué? Parce que la vie chrétienne est comme ça? Parce qu'on fait du copier-coller les uns avec les autres? Ou est-ce que c'est l'amour de Dieu qui me presse? Les âmes? Le mal? Le combat spirituel? Et la volonté de Dieu de racheter, de sauver, d'extirper de ce monde des âmes esselées. Et c'est le troisième point dont je voulais parler. Est-ce que nous accordons toujours autant de valeur pour les âmes? Vous savez, en Luc 15:7, Jésus dit ceci, « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Est-ce que nous gardons cette priorité de sauver des âmes? Une âme pour Dieu. Je parlais avec certaines personnes cette semaine. Nous, en tant qu'occidentaux, on a tendance à penser démocratie, majorité, opposition. Et pour nous, la victoire, c'est quand on a plus que 50%. Pour nous, c'est ça la victoire. Mais quand on marche avec Dieu, on ne cherche pas à être majoritaire, forcément. On ne cherche pas à être les plus visibles. Peut-être que lorsque l'on prêche, il n'y a pas comme dans Acte 2, 3000 âmes qui se convertissent en un seul jour. On aimerait vivre ça. Vous imaginez, vous êtes sur une place publique, vous prêchez, et les gens saisis par l'esprit s'agenouillent et se tournent vers Dieu. Qui n'a pas rêvé de ça? Mais qui a vécu ce rêve? Mais une âme pour Dieu réjouit les anges au ciel. Une âme. Est-ce que je garde ça dans mon cœur, cette priorité de parler à mon voisin, de parler à un collègue de travail, de prier peut-être simplement dans un premier temps, mais de cultiver ça. Vous savez, s'il n'y a pas cette façon de penser, je ne sais pas comment on peut tenir 10, 20, 30, 40 ans dans la vie chrétienne. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne, ce sera comme un musée au bout d'un moment, plein de poussière. Et on n'a pas envie de vivre dans un endroit mort. Mais ce qui nous permet de cultiver une vie spirituelle avec Dieu, c'est d'être reconnaissant et de méditer sur les bienfaits que nous avons. Autre chose aussi qu'il nous faut conserver, c'est la vie de l'Église. Dans Actes 2, 42, il est parlé, alors là pour le coup, des premiers chrétiens. Alors est-ce que ces chrétiens auront persévéré pendant des années ? J'en sais rien. On sait qu'il y a eu des hauts et des bas dans l'Église naissante. Il y a eu des divisions, il y a eu des persécutions aussi, bien sûr. Il y a eu de la dispersion. Il a fallu qu'ils se séparent à cause de la persécution. Mais là, en Actes 2, 42, il est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, donc la doctrine, didascalia en grec, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Les quatre choses qui sont les piliers d'une église locale. D'abord, l'enseignement. On ne peut pas prier correctement si on n'est pas enseigné. On ne peut pas savoir ce qu'est une vraie communion fraternelle si on n'est pas enseigné. On ne peut pas cultiver la fraction du pain et donc le célébrer ce que Christ a fait à la croix si on n'a pas été enseigné. Donc l'enseignement, c'est le fondement de tout, c'est le premier pilier. Et c'est pour ça que dans l'Église, on a besoin d'étudier, de réétudier encore, d'élargir nos tentes dans la connaissance des Écritures. Et puis ensuite, il est dit dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Il persévérait. La joie de se retrouver, la joie de partager une vision, la joie de prier ensemble. Ensuite, la fraction du pain, j'en ai parlé, c'est de célébrer ce que Christ a fait au calvaire. De ne pas être indifférent devant l'œuvre de la croix. Et pour cela, il faut sonder son cœur, réaliser combien nous étions loin de Dieu et de dire « Seigneur, aide-moi à vivre jour après jour la réalité de la croix. » Et puis le quatrième point, dans les prières. Il persévérait dans la prière. Vous savez, le diable persévère dans son combat. Il persévère dans la persécution, il persévère dans le mensonge, il persévère dans la division, il persévère dans ses stratégies. Il a un avantage au-delà du fait qu'il est plus puissant que nous, c'est qu'il dort jamais en plus. 24 heures sur 24, il agit. Mais nous avons la prière. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Croyons-nous ça ? Est-ce que nous gardons ces choses dans nos cœurs ou est-ce que nous sommes, et on peut le comprendre humainement, envahis par les vagues d'incrédulité, les vagues de déception, les vagues de persécution parfois, les vagues de division, les vagues de déception. Ou alors on se dit, Seigneur, au-delà des vagues, il y a toi qui es au ciel et tu fais ce que tu veux. Psaume 115. Et ça nous amène à la reconnaissance. La reconnaissance est une valeur primordiale dans la vie chrétienne. Combien d'entre nous, à cause aussi d'un mode de pensée, sommes imbus de nous-mêmes et on pense que tout nous est dû. Mais d'être reconnaissant. Colossiens 3,15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. C'est intéressant, là, dans ce verset, on voit toute l'action de Dieu. La paix de Christ, elle vient de lui. Pourquoi cette paix nous est proposée ? Parce que une fois ressuscité, nous avons l'assurance, parce que Christ est ressuscité, que le prix a été payé. Et donc, nous n'avons plus un Dieu qui vengeur, un Dieu qui nous condamne. La condamnation a été reçue par Jésus-Christ. Et donc, maintenant, nous avons un Dieu de paix. Et ce Dieu de paix, à laquelle vous avez été appelés, nous sommes appelés à la paix. Vous savez, imaginons quelqu'un que l'on craint, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui sait tout de nous, ça c'est Dieu, nous appelle. Vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'il me veut ? Un peu comme au travail, vous savez, quand le chef dit, vous pouvez venir dans mon bureau ? Vous vous dites, qu'est-ce qu'il me veut ? Le gendarme au bord de la route, il nous arrête. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Mais Dieu nous appelle à la paix. Viens, j'ai une paix à te proposer. Et donc vous avez été formés, donc, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps. C'est-à-dire que le corps de Christ que nous sommes est le résultat de la paix de Dieu que nous avons reçue. Parce que nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix avec nous-mêmes. Parce que nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix avec les autres. Les autres ne sont pas parfaits, mais on leur propose la paix. Une paix qui va au-delà de la justice humaine. C'est une paix qui est issue de l'œuvre de la croix. C'est un miracle. C'est quelque chose qui nous est qu'on ne méritait pas. Et pourtant, c'est là, jour après jour. Et donc, il termine son verset, là. Vous avez formé un seul corps, que la paix règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Vous savez, il y a des fois dans la louange ou dans la reconnaissance, il peut y avoir deux parties qui sont toutes les deux importantes. Mais souvent, on se focalise, à cause de l'indifférence ou de l'habitude, de la familiarité, on reste focalisé sur la première partie. Et donc, on va citer peut-être des versets des psaumes quand on va louer Dieu. « Seigneur, merci, t'es merveilleux. Merci parce que tes œuvres sont admirables. » Et tout ça, c'est vrai. On va louer Dieu. Mais il y a la deuxième partie, on va louer Dieu pour des choses personnelles dans notre vie. Aussi. Pas simplement une louange générale, Dieu est merveilleux. Oui, mais est-ce qu'il est merveilleux dans ma vie? Et là, on va commencer à compter les bénédictions. Pas regarder uniquement la liste des choses qui ne vont pas, mais prendre la liste des choses qui vont très bien. J'ai l'assurance du salut. Quelle est ma destinée? Être avec Dieu pour l'éternité. J'ai mal quelque part dans mon corps, mais un jour j'aurai un corps glorifié. Il y a une lutte en Romains 7, le bien que je veux faire, j'y arrive pas, et le mal que je veux pas faire, je le fais quand même, ou je le pense. Mais l'apôtre Jean nous dit, lorsque nous le verrons, nous serons comme lui. Oh, merci Seigneur, je suis reconnaissant pour ça. Je vais pas vivre éternellement comme je suis. Je vais vivre éternellement en fonction de ce que tu m'as appelé d'être un jour, comme toi, créé à ton image. Et là, le ciel n'a pas changé, il pleut, il fait soleil, ça ne change pas, nos situations difficiles sont toujours là, mais il y a la paix de Dieu qui vient dans notre cœur. Merci Seigneur, je te loue de ce que tu m'as fait une créature si merveilleuse, comme l'a écrit David. Une autre chose que l'on doit cultiver aussi, préserver, c'est notre vocation. Certains ne la connaissent pas, leur vocation. Certains ont une petite idée, certains sont en plein dedans. Et de garder dans son cœur la vocation que Dieu nous a donnée, l'appel de Dieu que nous a donné. Dieu nous a donné les dons que Dieu nous a donnés, une vision que Dieu nous a donnée, de cultiver cela. En 2 Pierre 1:10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous savez, quand on est dans la vocation ou dans l'appel, il y a des moments de doute parce que on est des fois ballotté par des vagues. Mais quand on se souvient de la manière dont on a été appelé, on garde le cap. C'est un peu, vous savez, la situation, je transpose le passage, ne parle pas de ça, mais ça nous pas. Je cite quand même ce passage pour vous montrer un peu la façon dont nous opérons. Il y a une tempête, les apôtres sont dans le bateau, Jésus marche sur l'eau, il appelle Pierre. C'est l'appel. Il l'appelle. Qu'est-ce que fait Pierre? Il répond à cet appel. Et puis, une fois qu'il commence à marcher sur l'eau, les réalités d'existence, l'impossibilité même qu'il puisse être appelé à marcher sur l'eau, l'amène à douter et il s'enfonce. Mais vous savez, vivre sa vocation, c'est être en permanence en train de marcher sur l'eau. C'est une vie miraculeuse, la vie chrétienne. Si la vie chrétienne était possible, on n'aurait pas besoin de Dieu. La vie chrétienne doit être impossible. Et c'est parce qu'elle est impossible que nous nous appuyons sur lui. Et donc, il nous faut sans arrêt nous rappeler l'appel de Dieu. Moi, je me rappelle très bien, entre autres, il y a eu plusieurs niveaux d'appel dans mon existence, mais l'appel qui consistait à le servir à plein temps pour lui, j'avais 2-3 semaines de conversion, je connaissais rien à la Bible, c'était vraiment, j'étais ignare, j'étais un enfant, j'étais un bébé. Et pourtant, le Saint-Esprit, d'une façon claire, une voix près de du jardin du Pérou, aux Arceaux, au coin d'une rue, pour les Montpellierains, vous connaissez ce quartier. Dieu me dit, tu acceptes ou tu acceptes pas. Et j'ai dit oui ce jour-là à Dieu. Je pourrais mettre une plaque au coin de cette rue. Ici, Michel Texier a répondu à l'appel de Dieu. Et quand il y a des moments de doute, quand il y a des moments où même je me trompe, des moments où je pêche, des moments où je flanche, ou peut-être parce que parfois l'opposition est difficile, je me rappelle de cette plaque virtuelle. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé. Et c'est toi qui m'amèneras jusqu'au bout. Je ne regarde pas aux circonstances. Il y en a des circonstances. Mais Seigneur, tu m'as appelé. Moi. Un petit amas d'atomes. Un moins que rien. Tu m'as appelé. Et je rentre dans cet appel. Et je garde cet appel. Je repasse ça dans mon cœur comme quelque chose de précieux. C'est pas vain, l'appel de Dieu. Vous savez, je terminerai là-dessus pour vous montrer aussi la façon dont Dieu nous voit. J'ai vu un film il y a très longtemps, j'étais pas chrétien, pour ceux qui l'ont peut-être vu, c'est un film de Claude Lelouch qui s'appelle « Les uns et les autres ». Et à un moment donné, il y a des gens qui partent dans un train, dans un camp de concentration. Et puis il y a un couple qui a un tout petit enfant. Et ils sont dans un coin du wagon, ils sont tous debout, et ils sont tous amassés dans un coin du wagon, parce que de l'autre côté, il y a un trou pour les toilettes. Et à un moment donné, le train s'arrête dans une petite gare en France. Eux, ils savent pas où ils sont. C'est noir, il y a juste une lampe. Il y a le mari qui regarde le trou, et on le voit, il réfléchit. Et il va vers sa femme, et sa femme, elle comprend. Elle a l'enfant dans sa main. Et le père prend l'enfant et le met dans le trou sur les rails pour que l'enfant soit sauvé. Parce que cet enfant était beau à ses yeux. Il voulait le préserver. Il l'a déposé sur les rails et le train est parti. Et eux ont été dans un camp de concentration. Et on voit dans le film que l'enfant a été recueilli, il a été élevé. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que avec Dieu, c'est une illustration inversée qui s'est opérée. C'est que dans les bras du Père, il y avait le Fils bien-aimé en qui il y avait toute son affection. Et le Père n'a pas préservé le Fils parce qu'il nous regardait, nous. Il nous voyait beaux. Il nous voyait merveilleux. Il nous voyait rachetés. Il nous voyait purifiés par le sang de l'agneau. Il nous voyait glorifiés. Il nous voyait ressuscités. Il nous voyait vivre pour l'éternité. Et Dieu nous dit, préservez votre vocation, fortifiez-vous dans l'amour de Dieu. Je vous vois beau, je vous vois parfait en Christ. J'ai sacrifié mon Fils, je l'ai laissé à la croix pour que vous, vous puissiez avoir la vie éternelle. Et on va être indifférent avec ça. Bien sûr, on traverse des épreuves, bien sûr, on a des difficultés, bien sûr, on n'a pas la vie qu'on a rêvé, et peut-être tant mieux qu'on ne l'a pas. Tant mieux. Mais Dieu a vu quelque chose de bon en nous, et il nous a rachetés de toute iniquité. Il nous a régénérés, il nous a donné une vie nouvelle, la vie éternelle. Et il y a des nouveaux cieux, une nouvelle terre qui nous attendent. Gardons ce qui est beau. Choyons-le. Exaltons-le. Présentons-le aux autres. Partageons cette vision. Ce que l'on voit va passer. Mais ce qui est dans notre cœur durera éternellement. Que Dieu vous bénisse.